Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les 1001 randonnées qu'il faut avoir faites dans sa vie » est un guide illustré de grand format, publié chez Flammarion et dirigé par Barry Stone, avec une préface de Bernard Olivier. L'ouvrage appartient à la collection Les 1001 et propose une sélection ambitieuse de parcours pédestres à travers le monde. Son objectif n'est pas de fonctionner comme un manuel technique unique, mais comme une encyclopédie de l'itinérance à pied, capable de faire voyager le lecteur d'un sentier mythique à une balade plus accessible. On y trouve des itinéraires en montagne, en bord de mer, en ville, sur des îles ou dans des campagnes, avec des indications pratiques sur la difficulté, la distance et les paysages. Le livre s'adresse autant aux randonneurs expérimentés qu'aux simples curieux en quête d'idées de sortie et d'évasion visuelle. Par son ampleur, ses photographies et son classement des parcours, il combine inspiration, repérage et ouverture sur la diversité de la marche dans le monde. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une encyclopédie mondiale de la marche, des sentiers mythiques aux parcours accessibles. Le premier intérêt du livre est sa logique encyclopédique. Il ne se limite pas à un territoire, ni à un type de randonnée, mais embrasse une vision globale de la marche, comme pratique culturelle et géographique. Les itinéraires évoqués vont de références célèbres comme le Sentier des Appalaches, le GR20 ou le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à des lieux plus inattendus, comme le canyon de Karine au Kazakhstan. Cette diversité donne au lecteur une cartographie très large de ce que peut être la randonnée, une performance sportive, une aventure de plusieurs jours, mais aussi une exploration plus contemplative. Le choix de 1001 parcours crée une logique de collection et d'abondance qui incite moins à tout faire qu'à explorer, comparer et rêver. Le livre se distingue ainsi d'un guide local ou d'un top limité, car il construit une culture de la marche à l'échelle internationale, avec des destinations qui couvrent plusieurs formes de relief, de climat et de contexte humain. Deuxièmement, un livre pensé pour inspirer la préparation autant que l'évasion visuelle, l'ouvrage ne se contente pas d'aligner des noms de randonnée. Il combine information et envie de départ. Les notices sont accompagnées de photographies très présentes, souvent mises en avant par les lecteurs comme l'un des grands atouts du livre. Cet aspect visuel est essentiel, car il transforme le guide en objet de consultation régulière, pas seulement en outil de préparation. Les images donnent à voir des paysages de mer, de montagne, de ville ou de campagne et permettent au lecteur d'anticiper l'ambiance d'un parcours avant même de s'y engager. Dans un livre de ce type, l'illustration n'est pas décorative, elle sert d'interface entre l'imaginaire et l'action. C'est aussi ce qui explique son usage fréquent comme cadeau ou comme ouvrage de salon, puisqu'il peut être feuilleté sans projet immédiat de randonnée. Le livre occupe donc une place intermédiaire entre atlas d'inspiration et guide pratique, avec une forte dimension de rêve documenté. Troisièmement, des repères pratiques utiles pour choisir un itinéraire selon son niveau. Même s'il reste un beau livre, l'ouvrage a une vraie fonction de sélection. Les informations données sur chaque randonnée aident à hiérarchiser les choix selon l'endurance, le temps disponible et l'expérience du marcheur. Les sources soulignent la présence d'éléments utiles comme la distance, la difficulté, le type de paysage et les points d'intérêt, ce qui rend le contenu exploitable pour une préparation concrète. Cette structure est importante, car elle évite de réduire le livre à un simple catalogue de lieux emblématiques. Le lecteur peut s'en servir pour repérer des randonnées courtes, des itinéraires de plusieurs jours ou des parcours plus exigeants. Le livre répond ainsi à des besoins différents: découvrir, planifier, comparer. Il convient aux débutants qui cherchent des idées accessibles comme aux randonneurs confirmés qui veulent identifier des défis plus ambitieux. En pratique, l'ouvrage agit comme un filtre, il ne remplace pas un topo guide détaillé, mais il aide à orienter le choix initial vers un terrain et un niveau cohérent. Quatrièmement, une œuvre de sélection plus que de mode d'emploi, avec ses limites assumées. La force du livre tient aussi à ce qu'il n'essaie pas de faire tout ce qu'un guide technique ferait. Plusieurs avis rappellent qu'il s'agit surtout d'une listée d'itinéraires, parfois très vaste et impressionnante, mais pas d'un document conçu pour marcher directement avec lui dans le sac. Sa taille, son poids et l'absence de cartographie détaillée pour chaque parcours limitent son usage sur le terrain. Cette réalité n'est pas un défaut accidentel, elle découle de son ambition éditoriale: présenter un panorama mondial plutôt qu'un mode d'emploi opérationnel. Le livre doit donc être lu comme un instrument de sélection et d'inspiration, pas comme une référence logistique exhaustive. Cette distinction est utile pour bien l'évaluer. Il s'adresse à ceux qui aiment préparer leur randonnée en amont, nourrir leur culture des grands itinéraires ou constituer une bibliothèque de voyage. En ce sens, sa limite devient cohérente avec son identité de beau livre documenté, conçu pour la découverte autant que pour la consultation. En dernier lieu, un ouvrage de référence pour les passionnés de randonnée et les amateurs d'évasion, le public cible est large. mais il est clairement centré sur les personnes qui entretiennent un rapport régulier ou curieux à la marche. Les randonneurs expérimentés y trouveront un répertoire stimulant de parcours connus ou moins connus, tandis que les débutants disposeront d'un point d'entrée lisible vers un univers vaste et parfois intimidant. Le livre fonctionne aussi très bien pour les lecteurs non sportifs, car il propose une forme de voyage par procuration. Les avis mettent d'ailleurs en avant son usage comme cadeau, preuve qu'il est perçu comme un bel objet culturel, autant que comme un guide. Ce qui le différencie de nombreux ouvrages de randonnée, c'est l'ampleur internationale de sa sélection et le soin éditorial apporté à la présentation. Il ne cherche pas seulement à enseigner comment marcher, mais à montrer tout ce que la marche permet d'explorer paysages, territoires, cultures et imaginaires. Cette vocation hybride explique sa place à part dans la catégorie des livres de randonnée. En conclusion, les 1001 randonnées qu'il faut avoir faites dans sa vie s'adressent en priorité aux amateurs de marche, aux voyageurs, aux lecteurs curieux de paysages et à tous ceux qui aiment feuilleter un livre. Avant de choisir un itinéraire, il intéressera particulièrement les personnes qui cherchent des idées de randonnée variées, classées par niveau et par type de décor, sans devoir parcourir des guides techniques trop spécialisés. Son intérêt pratique tient à la richesse de sa sélection et à la présence d'informations synthétiques qui facilitent le repérage. Son intérêt intellectuel, lui, vient de sa vision large de la randonnée comme expérience mondiale, à la fois sportive, culturelle et contemplative. Ce qui le distingue vraiment des ouvrages comparables, c'est son format encyclopédique. Son ambition de couvrir des parcours emblématiques sur plusieurs continents et la qualité visuelle de son édition. Il ne remplace pas un topo guide sur le terrain, mais il excelle à donner des envies, à structurer une culture de la marche et à ouvrir des horizons. C'est un livre de référence pour explorer la randonnée comme patrimoine d'expérience, plutôt que comme simple activité de plein air. Si vous souhaitez soutenir Collectif, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.